Allô?
Ouais, Salomé, j'ai une idée pour sororité.
Ah ouais, c'est quoi?
Bah en fait, on pourrait parler de...
La sororité au cinéma.
Et tu connais Alice Guy?
Alors, pas du tout. Très peu, je sais qu'il y a un film qui est sorti sur elle dernièrement, mais c'est tout ce que je vais pouvoir te dire là.
Ouais, bah il était temps en fait qu'un film sorte sur elle, parce qu'elle a été gommée de l'histoire du cinéma pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est pourtant, en fait, c'est une des premières personnes à avoir fait du cinéma. Et si ce n'est la première, parce qu'en fait, c'est la première qui a réalisé de la fiction. Et elle a aussi créé une société de production aux États-Unis. Enfin, elle a fait plein de trucs et elle est très importante pour l'histoire du cinéma. Et pourtant, même les étudiants en cinéma n'en ont jamais entendu parler, ou alors très très peu. Et d'ailleurs, je suis avec Loana Rex.
Salut Loana.
Salut. Et elle est scénariste et réalisatrice dans la société de production Idyllic Studio. Et donc toi, tu as fait des études de cinéma à la fac justement. Et est-ce que tu as entendu parler d'Alice Guy?
Ben, pas tant. Un petit peu dans un thème d'histoire du cinéma, mais vraiment rapidement évoqué. Et ça n'a jamais été relevé vraiment le rôle crucial qu'elle a eu dans le développement du cinéma en France et aux États-Unis. Et je trouve ça assez fou parce que je l'ai vraiment découvert dans le documentaire. Donc ça m'a choquée comment une femme réalisatrice a été complètement effacée et oubliée de l'histoire du cinéma. Et que ce soit volontaire ou non, ça montre bien qu'il y a un point de vue dans la manière dont elle racontait l'histoire du cinéma, et que ce point de vue-là, c'est celui des hommes en fait.
Ouais, c'est bien le problème, parce qu'en fait, les femmes, qu'elles soient réalisatrices ou techniciennes au cinéma, elles sont très souvent invisibilisées et oubliées. Enfin, c'est pas très souvent, elles sont massivement invisibilisées et oubliées. Et d'ailleurs, en 2018, le collectif 50-50 a organisé une action sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Elles ont réuni 82 femmes pour représenter l'absence des femmes à Cannes et au cinéma. Et parce que 82, parce qu'en fait, c'est le nombre de films réalisés par des femmes qui ont été invitées à concourir en compétition officielle, contre 1688 films réalisés par des hommes.
Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est pareil pour les Césars. Il me semble qu'il n'y a que Toni Morrison, non, en réalisatrice femme, qui a eu la réalisation du meilleur film pour le grand film.
Ouais, pour moi, c'était, il n'y en avait qu'une aussi.
Ouais, il n'y en a qu'une, ça c'est sûr. Celle-là.
Ouais, il me semble que c'est ça pour Toni Morrison, mais en plus de 70 ans de cérémonie.
Ouais, Et du coup, c'est le collectif 50-50 qui s'est créé pour justement œuvrer à la parité et à l'égalité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel, en partant du principe qu'ouvrir le champ du pouvoir favorisera le renouvellement de la création. Et du coup aussi, parce qu'en fait, la parité réduit le rapport de force. Parce que quand il y a plus de femmes sur un tournage, forcément, elles sont plus en confiance. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de ton expérience par rapport au tournage?
Ouais, écoute, moi, ça a évolué récemment parce que, en fait, j'ai commencé à faire du cinéma il y a 5 ans. Et au début, quand j'ai commencé, je travaillais avec beaucoup d'hommes dans mon équipe technique, notamment aux postes clés comme la direction de la photo. Et récemment, là, fin janvier 2021, j'ai tourné un film qui s'appelle El Violador et Restou, dans lequel je voulais mettre en scène la puissance de la sororité en reprenant l'hymne chilien féministe Un Violador en Tu Camino. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle.
Si, carrément.
Et du coup, sur ce plateau, pour la première fois, j'ai eu une équipe d'image exclusivement féminine, et avec une majorité de femmes sur le plateau. Je crois qu'on était 18 femmes pour 10 hommes. Et comme c'était un projet vraiment mené par des femmes, donc production, réal, assistante réal, équipe d'image, actrice, c'était que des meufs, quoi. Ben, il y avait une énergie vraiment différente sur le plateau, surtout que le film abordait des thématiques féministes. Et donc, le plateau était vivant politiquement. Donc, il y avait plein de débats qui se créaient sans cesse, mais aussi hyper stimulant créativement parce que les idées se croisaient. Et pendant les temps de pause, tout le monde chantait, dansait. Enfin, il y avait vraiment... c'était très vivant. Et du coup, j'ai fait un documentaire aussi, un court-métrage documentaire sur le plateau, sur cette expérience de tournage, parce que c'était, j'ai trouvé assez unique. Et du coup, j'ai appelé le documentaire « Todas contra el Violador », parce que c'était vraiment... on était des femmes très différentes, parce que celles qui ont les actrices principales, en fait, sont latino-américaines, des militantes féministes latino-américaines, et elles ont un vécu complètement différent d'une autre en tant que femme blanche occidentale, voilà. Et donc, on a croisé nos vécus comme ça, nos expériences en tant que femmes, dans le cinéma, dans l'art, mais aussi dans la vie quotidienne, et c'était vraiment super stimulant. Donc, je pense que ça change la vie en tant que réalisatrice d'être entourée majoritairement de femmes sur un plateau. Je me suis sentie plus en confiance, plus sûre de moi. Je gérais vraiment les choses. Et voilà, en fait, la directrice photo, elle me critiquait si elle pensait que si elle avait d'autres propositions à me faire. Mais il y avait vraiment un dialogue, une communication hyper fluide que j'avais jamais ressentie sur un autre plateau.
Oui, c'est ça, elle te critiquait pas parce que tu savais pas, parce que t'es une femme et que t'as pas forcément les compétences. Elle te critiquait pour tes idées et parce que elle pouvait penser que ça pouvait être mieux.
Oui, voilà, complètement. En fait, il y a plus de rapport de domination, puisqu'on est du même genre, enfin, assigné au même genre. Et du coup, on s'adresse d'individu à individu. Et donc, il n'y a plus de rapport de pouvoir qui s'en sort. Donc, c'est ça qui était vraiment intéressant à vivre. Ouais.
Et du coup, vous qui avez fait toutes les deux des études de cinéma, si j'ai bien compris,
oui.
La part de, du, enfin, quelle part féminine et quelle part masculine il y a dans les études de cinéma comme ça ? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ?
Moi, comme ça, je dirais qu'il y a un petit peu plus d'hommes. Ouais, il y a, bon, en plus, à la fac, il y a plus de femmes déjà. Mais parce que nous, on a toutes les deux fait une fac. Mais ouais, à la fac, il y a quand même pas mal de femmes, mais quand même une majorité d'hommes. Mais dans les écoles, je pense que c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire, mais il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les écoles de cinéma.
Mais après, par exemple, moi, j'ai fait des études de lettres aussi, en parallèle d'une étude de cinéma. Et les études de lettres, c'est pratiquement exclusivement féminin, par exemple. Et quand je suis allée en filière cinéma, j'ai été... c'était étonnant, quoi. C'était à peu près égalitaire, voire une majorité d'hommes.
Ouais. Ouais.
Mais je pense que la différence, elle ne se fait pas tant dans les études universitaires, mais vraiment sur les plateaux, à des postes... Enfin, les postes sont quand même encore très genrés, quoi. De moins en moins, mais quand même, les postes techniques restent très genrés.
C'est quelque chose dont on a déjà parlé, Salomé, dans le sens où il y a aussi toute une question de réseautage, de culot à avoir, que les femmes, on ne nous inculpe que pas à avoir ce culot-là, d'aller te pointer sans avoir de diplôme, sans avoir de quoi que ce soit, dans une boîte de production ou que sais-je, et dire « bah vas-y, moi je suis bon, prends-moi ».
Mais tout à fait, en fait. Et le syndrome de l'impostrice, on va dire, c'est vraiment un truc... Enfin, moi, je l'ai vu même dans les cours, où à un moment il fallait montrer un truc qu'on avait monté, mais c'était en L1, tu vois, on avait monté un truc, enfin moi c'était, il était mal exporté, enfin il y avait rien qui allait, tu vois, mais en fait j'avais vu un truc juste avant sur les pensées, enfin sur le traitement d'imposteur et tout, et en fait quand il a demandé qui voulait le projeter, j'étais la seule meuf à vouloir projeter le mien, parce que j'étais en mode bah quand même j'ai galéré, j'ai pleuré dans la première fois, je vais le projeter. Et en fait, c'est pas que les meufs de ma classe l'avaient pas fait. Parce qu'en fait, en sortant, j'ai entendu des meufs dire, ah ouais, non, mais moi, j'aurais jamais voulu montrer et tout, trop honte et tout. Alors que les autres mecs, qui avaient fait des trucs qui étaient pas incroyables du tout, hein. Mais, juste, en fait, ils étaient OK en mode, bah.
Mais ils se sont pas posé la question.
Voilà, c'est ça.
Il y a vraiment ce truc-là, je pense, dans tous les métiers, qui sont, on va dire, plutôt à tendance masculine dans l'idée qu'on en fait, parce que c'est juste une question de représentation, en fait. C'est pas une question de genre, en fait. Tu peux, à part si t'as besoin de ton pénis pour tenir une perche de son, je
oui,
pense
tout
que
à fait.
Le genre n'influe pas, en tout cas, là-dedans. Mais en tout cas, comme c'est pas représenté et que on dit toujours un technicien est rarement une technicienne, par exemple, et bah, oui. Derrière, il y a un souci ouais, comme tu dis, de syndrome d'imposteur, quoi.
Mais après, c'est dans beaucoup de corps de métier comme ça, de manière générale. Mais ce qui est problématique, particulièrement dans le cinéma, je trouve, c'est que, en fait, le fait de, enfin, ton genre s'exprime à travers ta création. Et du coup, ne pas, faire attention à la diversité sur les plateaux de cinéma et dans les films, c'est, vraiment choisir de ne pas représenter la société dans sa diversité, c'est invisibiliser tout un pan de vécu et c'est ça qui est extrêmement problématique dans le cinéma, si c'est un cinéma qui reste blanc, bourgeois et majoritairement masculin. Mais je crois que tu voulais en parler ensuite des notions de male gaze et de female gaze.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, même au-delà de ça, même en restant là-dessus, c'est aussi le cinéma français, même le cinéma en général, bah, il est blanc et masculin, comme tu disais. Et en fait, c'est un boys club, comme plein de, enfin, du coup, de la société et de milieux, où, en plus, le cinéma, pour le coup, comme tu disais, ça, Lucie, ça marche vachement par, par réseau, par cooptation et tout. Mais en plus, ça a des répercussions énormes parce qu'en fait, la critique, elle est aussi occupée par énormément d'hommes. Et en fait, tout est occupé par énormément. Enfin, les producteurs, ils sont beaucoup masculins et bah, ils embauchent. Enfin, tu vois, c'est des trucs, ils taffent avec leurs potes, en fait.
C'est ça. Qui,
en soi, bah, c'est compréhensible, mais en fait, ça pose vraiment problème.
Le monde notamment. N'est qu'en fait qu'un gigantesque boys club.
Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, effectivement, le fait que ce soit que des hommes qui pensent le cinéma, bah, ça se voit, en fait. Par exemple, Laura Mulvey, qui est critique, réalisatrice et théoricienne féministe du cinéma, a théorisé le male gaze, justement, dont on parlait. Et c'est le fait que la culture visuelle dominante, donc que ce soit la télé, la pub, le cinéma, soit régie par un regard masculin hétérosexuel qui découle de l'inconscient patriarcal, en fait. Parce que c'est parce que c'est inconscient. Lorsqu'on, enfin, quand on n'est pas déconstruit, et puis même quand on est déconstruit, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de trucs qui traversent. Et donc, ouais, c'est inconscient. Et en fait, c'est ça qui est problématique parce que, par exemple, les réalisateurs ne voient pas le problème à découper les corps des femmes en les objectifiant à outrance. Donc, quand on filme les pieds, par exemple, Tarantino, il fétichise à balle les pieds, ou même juste ben, le plan. 1 milliard de plans dans le cinéma sur les culs des meufs et les seins, les culs des meufs, ouais, les culs des seins, et ça, bah ça, c'est même plus, on le relève même plus dans un film en fait. Alors que bah, ça, c'est un regard masculin hétérosexuel. Et même sur les affiches où on coupe la tête, où on coupe les pieds, enfin, c'est.
Oui, bah ça, de toute façon, c'est toujours le corps des femmes qui est objectifié et qui. Je sais plus, alors vous saurez peut-être mieux que moi, mais il y a un test qui se fait sur les films où tu regardes le nombre de fois déjà où tu vois une femme apparaître ou. Et aussi la façon dont elle apparaît.
Ouais, la première question, c'est est-ce qu'il y a des femmes dont on connaît le nom et qui parlent ensemble d'autre chose que d'hommes?
Ouais, c'est ça.
Et déjà, cette première question, elle est hyper. Y a beaucoup, beaucoup de films qui passent pas. C'est le test de Bechdel, je crois.
Ouais, c'est
affolant. Et du coup, face à ça, Iris Bray, qui est journaliste, autrice, critique et théoricienne du cinéma, elle s'est spécialisée dans les questions de genre et a établi le concept de female gaze, donc 40 ans après le male gaze de Laura Mulvey, dans le regard féminin. Dans le regard féminin, une révolution à l'écran. Tu l'as lu, du coup?
Ouais, je l'ai lu et ça, pour le coup, ça a éclairé mon regard. Enfin, c'est quelque chose que dont t'as lointainement conscience, on va dire, quand tu fais des études de cinéma, mais c'est encore une fois quelque chose qu'on ne t'apprend pas. Enfin, moi, j'ai appris que le regard d'un réalisateur ou d'une réalisatrice s'exprimait à travers son œuvre et que du coup, c'était vraiment un point de vue sur le monde et qui était aussi un point de vue marqué sociologiquement parlant, quoi. Enfin, par ton déterminisme social. Je l'ai appris en réalisant des films et en lisant Iris Bray. Genre, j'ai jamais réussi à le conscientiser en étant à la fac, quoi. Donc, c'est par la pratique et par mes lectures autres que l'université. Universitaire qui déprécie souvent Iris Bray. J'ai souvent entendu un discours, non, mais il faut se méfier de ce genre de théorie, etc. Mais pourquoi? Enfin, même de prof femme, quoi. Et je comprenais pas parce que j'ai fait des études de lettres quand même à côté, donc j'arrive à, ouais, j'espère, déterminer un peu, avoir un esprit critique sur un discours. Et il me semble que celui d'Iris Bray se tient quand même, et que sa théorie du female gaze est validée par des centaines d'exemples. Et ça m'a vraiment donné envie de conscientiser mon regard de réalisatrice et de faire attention, enfin, dans la représentation des corps que je donne, dans la représentation du désir féminin. Et tout simplement dans la représentation du vécu des femmes. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça. Donc je pense que c'est une lecture incontournable, Iris Bray, quand on est une réalisatrice, mais aussi quand on est un réalisateur. Parce qu'il y a des hommes qui font du female gaze, bien sûr.
Oui, c'est ça, c'est la question que j'avais, c'était est-ce qu'il faut être une femme pour produire un film, enfin produire du female gaze?
Ben non, parce qu'en plus, même le male gaze, il est massivement produit aussi par des femmes, en fait. C'est que le male gaze, comme le female gaze, n'est pas caractérisé par le genre du ou de la réelle, mais par la mise en scène et la narration. Par exemple, Ridley Scott, dans
Thelma et Louise,
et il produit du female gaze. Et en contrepartie, il y a des films réalisés par des femmes qui produisent du male gaze. Et le male gaze, en soi, c'est pas quelque chose de néfaste. Ça pourrait être fait. Mais en fait, le truc, c'est que c'est néfaste dans le sens où c'est massivement... Enfin, c'est un truc qui... Tout le monde le fait.
Ouais. Et du coup... Ouais, notre système de représentation est basé sur le male gaze. Enfin, pour nous, c'est quelque chose de considéré comme normal dans notre imaginaire. Et dans l'imaginaire collectif. Et c'est ça qui est problématique, parce que si encore c'était une catégorie de films qui était considérée comme du male gaze et que c'était conscientisé, on pourrait, dans ce cas, l'apprécier comme tel et le considérer comme tel. Mais le temps que, en tant que spectateur ou spectatrice, t'as pas conscientisé ce que tu regardes aussi, et que massivement ce que tu regardes, c'est ça, c'est là que c'est problématique.
Ça, c'est problématique parce que ça devient la norme, en fait.
Oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est une image qui est biaisée. Et imprégné aussi par toutes les violences systémiques qu'on connaît.
Bah, c'est ça. Et du coup, le film male gaze, c'est... en fait, il faut commencer par poser des questions comme comment l'expérience vécue du personnage de fiction féminin est mise en scène. Comment est-ce que nous ressentons l'expérience spécifiquement féminine. Et du coup, Iris Bray, elle insiste sur le ressenti du corps féminin, parce qu'il doit être au centre, de façon à ce que nous ressentions... On puisse ressentir ce corps... Qui est plus passif, mais vraiment actif.
Oui, qui n'est pas juste bon à être regardé, presque.
Voilà, c'est ça, on ressent vraiment les sujets. Ouais.
Ah oui.
Et elle ne parle pas d'identification, mais plutôt d'être avec l'héroïne, en fait. Et du coup, elle en donne les grandes lignes. Par exemple, narrativement, il faut que le personnage principal s'identifie en tant que femme, que l'histoire soit racontée de son point de vue, et que celle-ci remette en question l'ordre patriarcal. Et dans la forme, il faut d'abord que les spectateurs et spectatrices ressentent l'expérience féminine, grâce à la mise en scène. Et si les corps sont érotisés, il faut que ce soit conscientisé. En fait, dans le male gaze, les corps principalement féminins sont toujours sexualisés, sans même que ça serve la narration ou que ce soit conscientisé, en fait, de la part du réalisateur. Parce qu'il tu vois, quand il filme des culs, c'est je vais faire un plan sur le cul parce qu'elle est de dos, donc pourquoi pas.
Mais même quand c'est conscientisé, ça peut être problématique. Pour moi, l'exemple absolu, c'est Kechiche, notamment avec Make to My Love, ouais. Où il a conscience de ce qu'il fait, parce que ça lui a été quand même assez largement reproché, des grandes critiques qui lui ont été adressées, de sexualiser à mort le corps de jeunes femmes qui rentrent dans des canons de beauté actuels, quoi. Donc, il a conscience de ce qu'il filme, mais il le fait quand même et à outrance. Donc, mais sans que ça serve la narration non plus, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment... Ça m'interroge beaucoup, hein, ce genre d'image, les images de boîte de nuit, là, dans Too My Love. Voilà, je suis assez... je pense qu'une des scènes de boîte de nuit peuvent être tournées autrement, et je pense que tu peux parler de la sexualité de jeunes femmes sans les sexualiser autant. Enfin, de cette manière-là, en tout cas.
Mais alors, je vais peut-être faire l'avocat du diable, dans le sens où est-ce qu'ils font pas ça aussi parce que ça va plaire à ce qu'on... au plus grand nombre? Parce que, en fait, tous les films... Ouais. Moi, je pense à Céline Sciamma qui fait des films female gaze, mais qui sont restés des films de niche, à part les féministes et les gens qui adorent le cinéma. Qui a vu ces films?
Après, Kishi, je pense qu'il n'est pas dans l'idée de plaire à tout le monde. Après, peut-être ouais, que je l'aimais trop à sa place, parce qu'il se considère quand même comme... Il est considéré comme cinéma d'auteur, quoi.
Ouais.
Et c'est une Sciamma maintenant, avec Portrait de la jeune fille en feu et la cérémonie des Césars, et elle sort avec Adèle Haenel. Enfin, maintenant, elle a complètement sa place. Elle est visibilisée, quoi.
Ouais.
Et du coup, je sais pas. En tout cas, pour le cinéma français, je suis pas sûre que le male gaze soit une volonté de plaire à tout le monde. Pour le cinéma hollywoodien, c'est peut-être différent. Je pense que c'est différent.
Non, mais je pense aussi, je parle que toi. Je pense que aux États-Unis, effectivement, il y a peut-être un peu plus de ça. Parce que c'est vraiment plus... Je dirais qu'aux années, c'est un peu plus évident, enfin, visible. Ouais, plus codifié, voilà. Et en France, c'est peut-être un peu plus implicite. Pas subtil parce que qu'ici. Mais.
Regard plus personnel, tu vois. Regard plus personnel. Aux États-Unis, bon, quand tu penses par exemple à tous les films de super-héros et super-héroïnes, elles entrent toutes dans le même modèle, dans la même case, quoi, les femmes, enfin, les super-héroïnes. Et en fait, voilà, il y a un modèle, il y a des codes, c'est les productions qui gèrent ça, et le regard du réel s'exprime peu. Alors que bon, la production du cinéma français, ça fonctionne différemment. Et du coup, ça tend peut-être, y a peut-être moins de codes comme ça aussi évidents dans la représentation des femmes et de leur corps, mais le gaze existe quand même, quoi. L'argent. Et c'est marrant parce qu'en lisant Iris Bray et en me la rappelant régulièrement, j'ai revu rétroactivement un peu tous les courts-métrages que j'avais fait ces deux dernières années. Et je me suis dit qu'à chaque fois, ce que je racontais, donc moi, je mets en scène que des héroïnes, pratiquement. Il n'y a que mon deuxième film, Nuit Blanche, où le personnage principal, c'est un garçon. Sauf à la fin, on revient sur le personnage de la fille. Mais là, les derniers, donc, il y a eu donc Néo Alchimie, qui raconte l'histoire de deux sœurs éco-terroristes. Il y a eu Chrysostome, qui raconte l'histoire d'une femme qui est vigneronne et qui va... En fait, un critique de vin justement fait pression sur elle, enfin, veut qu'elle couche avec lui pour qu'il lui donne ce qu'elle veut, c'est-à-dire un article qui puisse faire en sorte qu'elle puisse faire sa deuxième cuvée, donc pression professionnelle, quoi. Nymphe qui parlait d'hypersexualité et le regard sur l'hypersexualité féminine, ce qu'on appelle la nymphomanie, de manière maintenant inexacte, en fait. Enfin voilà, et je me suis dit que chacun de mes courts-métrages était avec toutes ces héroïnes-là qui luttent contre le patriarcat. Voilà, c'était un peu une réponse, une tentative des essais de mettre en scène des comportements qui pourraient déjouer ces systèmes de domination, les remettre en cause et surtout les annuler, quoi. Que ce soit par l'humour, par le discours politique, par l'action collective. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre en scène, de représenter des manières de répondre à ce système de domination patriarcale et de donner des, peut-être pas des solutions, mais des réponses, en tout cas, de comportements, en fait, à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de conscientiser son regard en tant que réel. Hein.
Ouais. Oui. En fait, c'est une responsabilité énorme qu'ils ne prennent pas du tout en compte, en fait. C'est de dire que c'est les modèles... Parce que c'est comme dans les livres, tout ça, en fait, c'est dans... Et tu vois, comme par exemple, en littérature jeunesse, ils commencent à se dire, bon, OK, on va falloir qu'on mette... Bon, après, pour l'instant, ça resterait dans les quotas. On va se dire, bon, alors là, c'est comme ce qu'ils ont fait aux Oscars, où ils ont dit, bon, bah là, si vous respectez pas ces quotas-là, ça pourra pas passer. Et ils se sont offusqués. Mais en fait, on a besoin de ça pour que les gens se rendent compte qu'en fait, sans les quotas, il n'y a pas de femme puissante, en personnage principal. Il n'y a pas de femmes noires, il n'y a pas de noirs tout court. Enfin, les acteurs noirs n'arrêtent pas de le dire, tu vois, qu'ils en ont marre d'être embauchés parce qu'ils sont noirs, ou de ne pas être embauchés parce qu'ils sont noirs. Et du coup, ouais, c'est hyper important et c'est vraiment central, je pense, qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils prennent leurs responsabilités, en fait.
Oui, je pense que maintenant, c'est autour des institutions de faire en sorte de faire de la place à tout le monde. D'arrêter qu'il y ait une espèce d'omerta autour de ce truc. Enfin, c'est un tabou que c'est l'homme blanc qui domine tout le secteur. Bon, là, je parle du cinéma, mais qui domine tout le secteur du cinéma, en tout cas très visibilisé et industriel. Et voilà, c'est vraiment aux institutions maintenant de faire en sorte de subventionner et de diffuser, de visibiliser des productions qui viennent de d'autres regards, quoi, que celui du mâle blanc bourgeois, en plus, hein, aussi. Enfin, parce que la question de la classe sociale, hein, qui est en jeu. Tout à fait.
Et arrêter d'attendre que les assos et les gens lambda le fassent à leur place, même si on a notre rôle à jouer aussi. Mais parce qu'il y a plein, par exemple, de comptes Instagram qui parlent de ça, enfin, il y en a plein, il y en a pas mal. Il y a La Machine Infernale et il y a surtout aussi Les 11%. Et du coup, c'est deux anciens étudiants de cinéma qui ont créé ça et qui publient sur des films réalisés par des femmes uniquement et qui ont des références qui sont vraiment hyper intéressantes et des films qui sont hyper originaux.
Oui, et ça, c'est que même c'est... au-delà du fait d'aller voir un film qui est réalisé par une femme, c'est surtout aller voir un film de qualité, en fait. Parce que moi, je sais que quand j'ai envie de voir un film cool, je vais sur ce site, compte Instagram-là, donc les 11%, c'est ça. Et t'es sûre de toi, en fait.
Mmh. Bah ouais, et puis, moi, j'ai remarqué aussi que dernièrement, en fait, qu'il y a... Bon, après, il y a plein de films de réalisateurs hommes que j'adore, hein. Mais que, en tout cas, dernièrement, les films que j'aime le plus, c'est des films qui sont réalisés par des femmes. Et c'est parce qu'en plus, je me dis aussi, je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, ben, comme il faut être deux fois plus, c'est un peu comme le sexisme, sinon c'est comme le racisme, où il faut être deux fois plus doué pour arriver à la même place qu'un homme blanc. Et ben, du coup, ça donne des trucs, enfin, quand une réalisatrice arrive à réaliser plusieurs films, c'est que vraiment, elle a réussi à faire sa place.
Ouais, mais l'exemple modèle, le grand modèle, c'est Céline Sciamma, évidemment, en France.
Ouais.
Maintenant, en tant que jeune réal, genre, c'est vraiment le modèle qui est à suivre, quoi. Elle est vraiment impressionnante. Et, mais tu vois, dernièrement, j'ai adhéré au collectif 50-50 et ils proposent des avant-premières, en fait, en ligne. Et j'ai regardé en avant-première le film La Terre des Hommes, donc qui est réalisé par un réalisateur. Son nom m'échappe là actuellement, mais en actrice principale, il y a Diane Rouxel. Et du coup, ça raconte l'histoire d'une jeune paysanne, une jeune agricultrice, pardon, qui veut s'installer avec son compagnon sur une nouvelle exploitation. Et en fait, elle va avoir besoin d'un ami de la famille qui est président du syndicat des agriculteurs et tout. Et en fait, il va la violer. C'est parce qu'elle va, mais elle va pas réussir à dire non correctement, enfin non mais pas trop, parce que elle sent qu'elle a besoin de lui pour arriver à monter son exploitation. Et en fait, la représentation du viol là, c'est vraiment du female gaze à fond, c'est-à-dire pas du tout érotisé, pas de voyeurisme. En fait, on filme des faits, et en fait ces faits là ils existent. Et donc, le film s'appelle La Terre des Hommes parce que là, le corps de cette jeune agricultrice est considéré comme une terre à labourer, et La Terre des Hommes parce que le monde agricole est majoritairement masculin, et en tant que femme, c'est difficile d'y faire sa place. Et du coup, c'est un film qui est female gaze, qui est écoféministe. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler dans le podcast, mais voilà, c'est un mouvement incroyable de force, donc, qui existe depuis les années 70, mais là, qui revient à la mode, on va dire, et donc qui est hyper intersectionnel. Et tu vois, moi, j'arrive à ce point dans ma réflexion où je me dis, c'est génial que ce genre de film sorte, mais je trouve ça dommage que ce soit réalisé par un homme.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est génial, et je trouve qu'il a fait un super boulot, et le film est trop bien, mais j'arrive à me dire, tain, c'est dommage, quoi, c'est un vécu de femme qui est très particulier, et il l'a bien saisi, hein, c'est pas la question. Mais voilà. Tu vois, c'est des récits dont les femmes devraient s'emparent certainement, mais qui ne sont pas assez visibilisées ou elles ne sont pas produites pour ça. Enfin, peu importe. Mais là, je trouve qu'il y a un petit truc qui cloche encore, quoi.
Et toi, du coup, tes films, ils sont visibles où?
J'ai un site internet à mon nom, j'ai un compte Instagram à mon nom, voilà, où il y a le lien de mon site. Pareil, j'ai une page Facebook, enfin, je suis assez visible sur les réseaux sociaux. Et sur mon site internet, il y a les liens vers les films qui sont en ligne. Et après, si jamais on veut voir des films qui sont pas encore en ligne parce qu'ils tournent encore en festival, on peut me demander en message privé le lien privé du film. Il y a aucun souci, je le donne avec plaisir parce que ben moi, j'ai encore du mal à ce que mes films soient vus. Du coup, je suis super contente à chaque fois que je peux les partager avec quelqu'un ou quelqu'une. Donc, vraiment, que les personnes n'hésitent pas si ça les intéresse. Et je suis vraiment super contente d'avoir pu discuter de tout ça avec vous. C'est super que des sujets comme ça soient abordés. Vous faites vraiment du super travail. Donc, merci pour l'invitation.
Un plaisir de partager. Merci à toi.
Carrément, merci à toi. Et puis...
Et nous, on se rappelle le mois prochain.
Carrément.
Okay.
Allez.
Bisous.
Salut.